Texte 8. Wegener illustre-t-il la notion de précurseur ? Texte écrit par Gabriel Gohaut. On parle parfois en histoire des sciences de précurseur pour désigner celui qui avance une idée ou une théorie qui ne s'imposera qu'une ou plusieurs générations plus tard. Tel est le cas de Wegener en géologie ou de Mendel en biologie. Si le précurseur a présenté son idée clairement, au point de susciter quelques adhésions chez les contemporains, peut-être faut-il admettre que ceux qui ont fait obstacle à l'acceptation de celle-ci ont fait preuve de cécité. Nous nous limiterons au cas de Wegener. La lithosphère, ensemble de la croûte terrestre et du manteau supérieur, est divisée en une série de plaques qui se déplacent les unes par rapport aux autres. D'où le nom de théorie ou tectonique des plaques donné à ce modèle qui s'est imposé dans ses grandes lignes au début des années 1960. En rompant brutalement avec le schéma antérieur, cette théorie offre un exemple de révolution scientifique au sens de Thomas Kuhn. Elle est cependant en germe dans une œuvre exposée 50 ans plus tôt. C'est en janvier 1912, à l'occasion de deux conférences, que le météorologue allemand Alfred Wegener, 1880-1930, présente sa théorie de la translation, qu'on nommera vite « dérive des continents ». L'auteur dira que l'idée lui en est venue en constatant le parallélisme entre les côtes d'Afrique et d'Amérique méridionale, évoquant un emboîtement de l'Amazonie dans le golfe de Guinée. La remarque avait déjà suscité des hypothèses plus ou moins sérieuses, et notamment celle de l'illustre Alexandre Humboldt, 1769-1859. Celui-ci voyait dans l'Atlantique une sorte de grand fleuve de 5000 km de largeur, envahi par la mer, ce qui lui permettait de comparer les séries géologiques de part et d'autre de l'océan. La théorie de la translation des continents répondait à une préoccupation des géologues de l'époque, ce dont Wegener prend conscience au fur et à mesure de sa formation. La similitude à l'ère primaire des formes de la faune et de la flore des différents continents de l'hémisphère austral. Dans sa face de la Terre, le géologue autrichien Eduard Suess, 1831-1914, avait donné le nom de Gondwana à l'ensemble de ces continents qu'il supposait séparés les uns des autres par des masses continentales effondrées. Mais la densité plus faible de l'écorce des continents par rapport au plancher des océans, tels qu'on les imaginait à l'époque, excluait de tels enfoncements de la croûte légère dans la matière profonde. C'est pourquoi les géologues américains préféraient croire que les océans avaient existé de tout temps, mais ils achoppaient à expliquer les ressemblances biologiques entre continents séparés. Wegener publie en 1915 un ouvrage sur « La genèse des continents et des océans », théorie des translations continentales, qui sera réédité 4 fois avant sa mort. Il sera traduit en diverses langues, en français en 1924. Mais dans un premier temps, la diffusion, à peine annoncée hors d'Allemagne, est interrompue par la Grande Guerre, au cours de laquelle les savants des deux camps prennent parti l'un contre l'autre. En 1922, quand les congrès géologiques internationaux reprennent après l'interruption résultant des hostilités, la délégation allemande est exclue, d'autant que la réunion se tient à Bruxelles, qui porte les stigmates de l'invasion. La même année, un auteur suisse, Elie Gagnebin, fait la première analyse en français du livre de Wegener. L'année suivante, la thèse est enfin discutée à la Société géologique de France ainsi qu'à la Royal Geographical Society. Mais c'est à New York qu'a lieu en 1926 la réunion la plus importante, organisée par les géologues pétroliers où défenseurs peu nombreux et adversaires de Wegener s'affrontent. Pourquoi cet échec du savant germanique malgré le caractère synthétique de sa thèse? Dans une science idéale, toute théorie contredite par les faits doit être abandonnée. C'est oublier que bien souvent les édifices théoriques complexes ne sont pas directement réfutés. Le philosophe hongrois Imre Lakatos les nommait programme de recherche, pour souligner qu'il s'entoure d'hypothèses auxiliaires, qui sont seules soumises à réfutation. Or, celles-ci sont parfois ad hoc, comme celles qui, au Moyen-Âge, protégeaient la théorie géocentrique. On a vu que les conceptions concurrentes des Européens, continent effondré, et des Américains, permanence des continents et océans, étaient chacune réfutées par certaines des données réunies. La première, par la faible densité continentale, la seconde, par la présence de liaisons biologiques entre terres séparées. La thèse de Wegener, qui évitait ces réfutations, avait néanmoins ses faiblesses. Outre qu'on ne concevait aucune force capable de faire migrer les masses continentales, on butait sur la formation des montagnes. Si les continents, faits de sial, matière légère à base de silicium et d'aluminium, se déplacent sur la matière du fond océanique, le sima, silicium et magnésium, c'est qu'ils sont plus rigides que celles-ci. Or, les plissements se font à la proue des continents qui se soulèvent et se déforment. Par exemple, les rocheuses et la cordillère des Andes pour le continent américain, migrant vers l'ouest, et non dans le fond océanique supposé plus fluide qui demeure plat. Comme le disait métaphoriquement un contradicteur américain, on ne coupe pas de l'acier avec des ciseaux de plomb. Ces objections et quelques autres restent alors sans réponse. Wegener, spécialiste des régions arctiques, quitte l'Europe le 1er avril 1930 pour le Groenland. Il y meurt quelques mois plus tard, sans avoir pu savoir que la principale objection à sa théorie était en passe d'être levée avec les travaux d'Arthur Holmes. Arthur Holmes, 1890-1965, est écossais et sera successivement professeur aux universités de Durham et d'Édimbourg. Ses travaux sur l'âge de la Terre le conduisent à la solution d'un mécanisme expliquant la migration des continents. Après la publication de son livre « The Age of the Earth », « L'âge de la Terre », il se consacre à l'étude de la radioactivité et de l'histoire thermique de la Terre dans la décennie suivante, 1915-1925. Depuis Fourier, 1824, on admettait que la Terre, faite de matière incandescente arrachée au Soleil, s'était refroidie en un temps que William Thomson, Lord Kelvin, avait estimé dans les années 1880 à quelques dizaines de millions d'années. La radioactivité de la croûte terrestre, ajoutant un dégagement de chaleur inconnu des prédécesseurs, offre à Holmes un moyen d'allonger l'âge du globe. Cette chaleur s'oppose au refroidissement. Dans ses premiers travaux, il estime que la radioactivité produit moins de chaleur que n'en dissipe le globe. Mais en 1925, il établit que la chaleur radioactive est plus élevée qu'il l'avait pensé, ce qui lui permet en 1928 de prendre parti pour la dérive continentale devant la Société géologique de Glasgow, où il délivre un exposé titré « Radioactivity and Continental Drift, la radioactivité et la dérive des continents ». Cet exposé sera publié en 1931, Transgeolsos Glasgow, soit peu après la mort de Wegener. Sa thèse est la suivante. La chaleur produite par la radioactivité des couches supérieures du globe les fluidifie et crée un excès de chaleur qui ne peut se dissiper par simple diffusion, selon le schéma de Fourier, mais par convection, qui suppose un transport de matière, à la façon de l'eau d'un récipient chauffé qui entre en mouvement à l'approche de l'ébullition. Comme la radioactivité est plus faible sous les océans que sous les continents, le granit continental, calcule-t-il, produit 4 fois plus de chaleur que le basalte océanique, un courant de convection ascendant se forme sous ces derniers, pour s'enfoncer sous les océans et se boucler en une cellule. La partie horizontale des cellules adjacentes étire les continents dans des sens opposés à partir de leur centre et enfonce dans les profondeurs leur bordure océanique. D'où un mécanisme qui explique la dérive des continents et répond à l'objection des adversaires de la théorie. Par ailleurs, dans le schéma de Wegener, les continents flottent directement sur le fond des océans selon la conception de l'époque. Holmes, en étudiant la transmission des ondes séismiques, conclut que la croûte des continents repose sur une couche solide qui se poursuit sous les océans, en sorte que la partie fluide, au niveau de laquelle se produit le glissement, la dérive, est située plus profondément sous la couche océanique, selon le schéma qui est encore le nôtre. Ce sont les plaques de la lithosphère, continent inclus, qui dérivent. L'objection des ciseaux de plomb ne tient plus. Quand on analyse rétrospectivement cette histoire, on se dit qu'elle devrait s'arrêter là, par la victoire des idées dérivistes. Pourquoi n'en est-il rien et fallut-il encore 30 ans avant leur triomphe? Les historiens évoquent parfois, à juste raison, la cécité des géologues de l'époque. Ce qu'on peut aussi traduire dans le vocabulaire de Paul Langevin en évoquant la sénilisation ou fossilisation des théories qui les maintient contre l'évidence des faits, la pensée et l'action. On peut donner quelques illustrations de cette cécité. Quand le frère d'Alfred Wegener, Kurt, voulut éditer la traduction française de la version ultime de la Genèse des continents et des océans en 1937, il compléta la bibliographie jusqu'à la date de publication. On y trouve ainsi, à la date de 1928, un bref résumé de l'article de Holmes, non encore paru, dans le Geological Magazine, mais rien pour l'année 1931, date de publication de l'article complet. Certes, a-t-on dit, les actes de la Société géologique de Glasgow ont une faible diffusion. Reste K.L. Dutoit, un géologue sud-africain, ce qui soutenait Wegener dès 1927, reprendra les idées de Holmes en 1937 dans l'ouvrage « Our Wandering Continents, nos continents vagabonds ». Ne paraissait-il pas assez sérieux, on l'a effectivement prétendu, lui qui osait s'affronter sur les arguments paléontologiques soutenant la dérive, l'illustre G.G. Simpson, cofondateur de la théorie synthétique de l'évolution, adversaire acharné des idées wegenériennes? Mais Arthur Holmes, qui jouit de tout le prestige possible, lui-même ne s'arrête pas à sa communication de 1928. En 1945, il offre ses « Principles of Physical Geology », ouvrage largement diffusé, dans lequel un chapitre est consacré à reprendre la thèse de Wegener. Cette publication ne provoque cependant aucune adhésion significative. On peut donner comme explication celle de l'épistémologue américain Larry Loden et de sa femme Rachel, historienne de la géologie. Ils avancent que les scientifiques usent de standards de pensée différents, les uns préférant des critères formels tels la symétrie, les autres des critères empiriques. Les travaux sur la dérive des continents relèveraient de deux standards. Pour ceux qui adoptent le premier, une théorie qui explique une large variété de types de phénomènes acquiert par ce moyen une forte plausibilité. Les seconds estiment qu'une nouvelle théorie ne doit pas seulement pouvoir s'appuyer sur un large spectre d'arguments, mais qu'elle doit aussi expliquer quelque chose qui diffère des phénomènes qu'elle a pour fonction d'expliquer. Avant les années 60, la forme des côtes, la parenté faunistique, la position des pôles déduites des climats anciens suffisent aux premiers. Beaucoup de preuves qui ne soutiennent la théorie qu'avec une faible probabilité peuvent collectivement former un réseau puissamment lié. Inconvénient, n'est-ce pas l'argument des parapsychologues qui, plutôt que d'affiner leurs expériences problématiques, cherchent de nouvelles preuves, toutes aussi grossièrement approximatives? Et d'ailleurs, les historiens ont remarqué que la théorie de Wegener était critiquée par les spécialistes des divers domaines concernés. La seconde communauté exigeait un nouveau mode de preuve, indépendante des données immédiates. Ils feront appel à un ensemble de travaux sur le paléomagnétisme, magnétisme fossile des roches qui conserve la direction, le sens et l'intensité du magnétisme des époques de leur formation. Une différence entre communautés, sans doute, mais qu'on pourrait ramener à un simple truisme. Certains sont plus exigeants que d'autres sur les preuves, ou encore à des idées préconçues. Certains sont sensibles aux thèses dites mobilistes, tandis que les autres ont des vues plus fixistes. Holmès appartient à la catégorie des scientifiques portés aux idées nouvelles, favorables au mouvement qu'on pourrait rapprocher des thèses évolutionnistes en biologie. Avec lui, quelques autres spécialistes, notamment le Suisse Émile Argan, auteur du terme « mobilisme ». Celui-ci eut l'audace en 1922 à Bruxelles au Congrès géologique, dans ce climat défavorable, de présenter une tectonique de l'Asie faisant appel aux idées wegenériennes. La majorité des géologues, peut-être plus frileux, s'en tenaient au thème classique, soutenant la fixité des structures et la permanence des océans et des continents. Leur insensibilité au schéma de Holmes, en concurrence d'ailleurs avec celui de quelques autres mobilistes, l'Américain Reginald Daly ou l'Allemand Benno Gutenberg, est peut-être une façon de garantir la cohésion de la science, qui ne peut se lancer dans toutes les idées nouvelles dont beaucoup seront mort-nées. À ce stade, le futur précurseur ne se distingue pas de tous ceux dont les idées seront abandonnées. Sauf qu'il a raison. Dans les cas de Wegener, la cécité des spécialistes au cours des années 1930-1960 est bien réelle et de plus en plus difficile à comprendre à mesure que les preuves paléomagnétiques s'accumulent. Ce qui laisse entière la question, comment un homme isolé et non spécialiste, peut-être mieux vaudrait-il dire, car non spécialiste comme Pasteur l'était vis-à-vis des médecins, puisque météorologue de formation, a-t-il pu faire une pareille avancée? Pourquoi tant de grands noms, tels George Simpson, le paléontologue, ou Sir Harold Jeffreys, le géophysicien, sont-ils restés adversaires de la dérive jusqu'à leur mort, respectivement 1984 et 1989? Difficile à dire, mais on connaît d'autres exemples qui montrent que des savants notoires vieillissants deviennent parfois incapables d'adhérer aux idées trop nouvelles.